Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog pour un nouveau podcast d'actualité. Avec moi aujourd'hui, nous avons Thomas.
Hey,
en direct de la rédaction et avec du vrai matériel.
Cette avec fois, du matos de pro, mon gars.
Contrairement à la semaine dernière, c'est vrai qu'on est un peu des, on a tous un Yeti là.
YouTube me voilà.
C'est assez fou. Nous avons aussi Romain, évidemment, avec nous, toujours en direct du Japon.
Ouais. Et là, j'ai été à la salle d'arcade du coin pour récupérer des vêtements parce que je commençais à être un peu à court.
Ça devient de plus en plus crédible, ce scénario parallèle, j'adore.
Et le pire, c'est que pour la petite histoire, ce t-shirt-là, je l'ai acheté à la salle Sega de Kabukicho, donc le quartier qui inspire celui de Yakuza.
Il y a donc des gens qui vont vraiment croire que tu es confiné au Japon.
Et ben pourquoi pas, entretenons le mystère, entretenons la magie.
Ouais, qui sait, ça se trouve, Romain est au Japon, ça se trouve, non, ça se trouve, il est dans la zone 51.
Tu vois ce qui veut dire, en gros, si j'étais vraiment au Japon, ça voudrait dire que je serais en train d'enregistrer le podcast en plein milieu de la route. C'est vu l'angle de vue, etc.
Ah, pourquoi pas?
C'est le mec avec mon ordi dans les mains en train d'emmerder tout le monde en plein milieu.
On en a connu qui encodait pendant les E3, tout en filmant et tout en mangeant.
Et je l'ai vu faire, donc je peux dire que c'est.
Ah ouais, on l'a tous vu, évidemment. On la salue d'ailleurs au passage. Cette semaine, donc, podcast d'actualité sur lequel nous allons nous étendre. Pendant trois thèmes, très exactement. Le premier, c'est évidemment Resident Evil Village, que nous avons pu voir la semaine dernière, un peu plus, grâce à un showcase annoncé par surprise quelques jours avant. Il y a Resident Evil Village, il y a d'autres choses qui ont été annoncées durant cet événement. Nous en parlerons juste après, notamment aussi de la démo. Le deuxième thème, eh bien, ce sera Microsoft, parce que, bon, on ne l'a pas mis en fail cette semaine, on préfère s'étendre un peu plus dessus, puisque avant le week-end, ils nous ont refait encore un coup de com' comme ils savent en faire depuis des années. Voilà, exactement. C'est une espèce de masterclass dans le gros n'importe quoi. Donc, c'était à propos des augmentations de tarifs de l'abonnement Xbox Live Gold. On en reparle tout à l'heure, vous verrez qu'on n'est pas forcément très content de ce qu'a fait Microsoft. Et on finira encore une fois avec quelque chose de super joyeux, c'est-à-dire que, bon, on laissera Thomas vous en parler de Balan Wonderworld, puisqu'il a pu jouer à la démo, que normalement vous devriez aussi avoir entre les mains d'ici très peu de temps, et c'est pas exactement aussi coloré au niveau de la vie que l'est le jeu.
C'est visuellement très coloré. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
Bon, en tout cas, on en reparle tout à l'heure. Mais
merci Thomas pour ton avis. C'était la semaine prochaine.
Comme d'habitude, nous allons d'abord commencer avec le win et le fail. Alors, en win, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'Electronic Arts, mon cher Thomas.
Oui, d'Electronic Arts, et qui plus est d'un jeu qui avait quand même fait couler beaucoup, beaucoup d'encre à sa sortie, c'était Star Wars Battlefront 2. Hein, rappelez-vous, le jeu qui avait un petit peu changé ses mécaniques de lootbox entre les versions review et les versions qui étaient arrivées dans le commerce. Eh bien, mon cher Plume, tu nous apprenais il y a quelques semaines que le jeu allait être gratuitement proposé sur l'Epic Game Store. Il fait partie des nombreux jeux hebdomadaires qui sont proposés sur la boutique du 14 au 21 janvier, donc malheureusement, c'est trop tard pour vous. Mais vous avez été a priori très nombreux à sauter sur l'occasion puisque ce sont près de 20 millions de téléchargements qui ont eu lieu, 19 et quelques. Hein. On n'est pas tout à fait à 20 millions, mais en tout cas, gros, gros carton pour le jeu multijoueur d'Electronic Arts, tant et si bien qu'il a même fait planter un petit peu les serveurs au tout début, le 15 janvier, donc 24 heures après sa mise à disposition. Et du coup, Electronic Arts a dû demander aux joueurs de patienter un petit peu le temps de trouver un moyen de rétablir un petit peu tout ça. En ces temps confinés, a priori, l'univers Star Wars dans un jeu multijoueur, malgré toute la polémique qu'il y avait eu autour, ça a particulièrement plu aux joueurs. Et c'est un chiffre assez conséquent quand même, parce que là, on a 20 millions presque de téléchargements. Le jeu avait peiné à atteindre les 10 millions au moment de sa sortie en termes de vente véritable, monnayée.
Donc, c'était une grosse déception pour Electronic Arts à ce moment-là.
Il
devait atteindre les 10 millions pendant les deux mois de son lancement, ça n'a pas été le cas. Et c'est limite si Electronic Arts ne l'a pas renié en disant « Ah oui, mais c'est parce que vous avez été chiant avec les lootbox. » Tu vois, c'était un peu ça l'idée à ce moment-là. Donc oui, très très bonne nouvelle pour le jeu qui pourrait du coup déboucher sur d'autres choses parce que ça reste un bon jeu. Le problème, c'était vraiment cette histoire de lootbox et de microtransactions un peu abusées qui étaient totalement au cœur de toutes les polémiques qu'on avait eues en 2017 et en 2018.
Et ça atteste aussi de la bonne santé de la série Battlefront et Battlefield en général, parce que c'est une série qui continue de cartonner et de faire les beaux jours d'Electronic Arts. Pardon, Romain.
Il faut juste garder à l'esprit que les gens qui découvrent le jeu aujourd'hui ne découvrent pas dans les mêmes conditions que les gens qui l'avaient téléchargé à l'époque, qui l'avaient acheté à l'époque. Et il y a justement toutes ces polémiques qui ont quand même servi à changer un peu la manière de faire d'Electronic Arts. Et vu le plébiscite là, en termes de téléchargement, ça peut, pour le coup, relancer les microtransactions, etc., à l'intérieur du jeu. Et peut-être que EA aurait tout intérêt à le faire passer maintenant en free-to-play d'une manière générale et définitive. Parce que clairement, il y a de l'intérêt, si tu as la possibilité de le télécharger gratuitement, il y a de l'intérêt pour ce jeu.
Et après, tu rechignes peut-être moins justement à dépenser de l'argent in-game. Si le jeu de base ne t'a rien coûté, peut-être que tu peux plus facilement te laisser aller à acheter un skin ou un personnage particulier.
Et ce qu'on a vu sur les jeux free-to-play d'une manière générale, il y a une grande majorité des gens qui dépensent jamais rien, mais ceux qui dépensent beaucoup. Et sachant que l'univers Star Wars, c'est quand même un univers qui peut générer des passions parfois déraisonnables, il y a peut-être un coup à jouer. Après, cela dit, les fans de Star Wars les plus hardcore sont peut-être ceux qui avaient acheté le jeu déjà à sa sortie. Donc, à voir. Mais ça se réglera, on va dire, sur les semaines et les mois à venir.
En tout cas, joli succès pour Electronic Arts et l'Epic Game Store, qui, pour le coup, fait carton plein avec un jeu qui sort au bon moment, on va dire.
Ouais, c'est pas leur premier gros coup. Hein. On se rappelle que GTA aussi a été beaucoup téléchargé, que dès son premier jour de commercialisation, il y a le dernier Total War, Troy, qui aussi a été un gros succès, Football Manager quand il a été gratuit. Bref, l'Epic Game Store fait des beaux coups, des belles opérations, et ça bénéficie beaucoup aux développeurs qui, du coup, ont à nouveau les projecteurs braqués sur eux. Et pour Battlefront, pourquoi pas, comme disait Romain, à la limite du nouveau contenu, des nouveaux DLC. Après tout, il y a une série qui marche très bien qui s'appelle The Mandalorian, il y en a d'autres qui vont arriver. Pourquoi pas réintégrer des choses de cet univers dans Battlefront 2 plutôt que de faire un nouvel épisode. Pourquoi pas.
Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec Dragon Ball Xenoverse 2. À la base, c'était une suite avec son contenu prévu, enfin son DLC prévu, et ça devait s'arrêter là et ensuite passer à ce qui vient ensuite. Et le jeu a tellement bien marché, les DLC étaient tellement populaires, qu'ils ont plutôt que de sortir un Xenoverse 3 deux ans après, ils n'ont eu de cesse que de rajouter du contenu venu de la série, venu des films, etc. Et ça continue, enfin je crois que ça continue encore même récemment. Et donc oui, ça peut être un autre calcul. En fait, parfois j'ai l'impression que les jeux qui deviennent vraiment des jeux services sont ceux qui n'avaient pas forcément cette vocation au départ. Tu vois, quand on ne te le met pas sous le nez et qu'on te dit « Ouais, c'est du jeu service, ça va fonctionner comme ça avec un planning sur 3 ans. »
Ou qui ont peut-être plus de chances de durer dans le temps que ceux qui sont véritablement pensés pour au départ.
Oui, déjà, les gens ont une sorte de mécanisme de défense quand on cherche à leur imposer quelque chose et avec l'entonnoir dans la bouche et du gavage, tu vois. Quand c'est fait plus subtilement et plus... les Américains aiment beaucoup utiliser cette expression de manière organique. ça passe mieux. Et peut-être que Battlefront 2 peut prendre ce chemin.
Et oui, et je vous l'avais dit. Souvenez-vous, hein, ce genre de choses. Quand tu commences à planifier... un truc comme ça, on va prendre Avengers encore une fois comme exemple, mais quand tu fais des trucs comme ça, bon, ça passe pas. Faut être sûr de toi, quoi. Faut avoir les reins solides et faut que ça marche du premier coup. Tu peux pas prétendre être un GTA Online ou je ne sais quel autre jeu service qui va cartonner dès le départ. Ça marche pas comme ça, la vie. Tu prévois ça en plan B à la limite.
Et tu vois, là, il y a des documents qui ont été trouvés en ligne, je crois, dans des offres d'emploi, des offres de stage, je sais pas quoi, chez Warner Bros. Où apparemment, ils écrivent noir sur blanc que leur jeu à venir, leur production à venir, vont vachement mettre l'accent sur le jeu service.
Bravo Warner Bros. Bravo,
et je pense que c'est pas un bon calcul. Et quand tu vois la réaction qu'a provoqué l'annonce du jeu Suicide Squad, qui est pourtant Rocksteady. genre un des joyaux de chez Warner Bros et un studio qui bénéficiait d'une super réputation. Là, il y a zéro hype, zéro intérêt, parce que les gens savent déjà que ça va être un jeu service et ça tue le truc un peu dans l'œuf, tu vois.
Après, il faut peut-être pas condamner le modèle de base, tu vois. C'est peut-être pas se tirer tout de suite une balle dans le pied que d'opter pour le type du jeu service. Mais
jeu service multijoueur, il faut quand même avoir les étoiles bien alignées.
Tout à fait.
Il faut pas que ça soit la seule raison d'être du jeu. Si la base c'est le jeu service sur lequel le jeu est construit, ça passe moins bien en fait. C'est pour le jeu ait quelque chose à proposer et ensuite si tu arrives à capter l'intérêt avec ta base, là ensuite tu peux devenir un service en ajoutant des trucs. Enfin c'est ce que l'histoire nous a montré.
Ouais, mais va expliquer ça aux financiers, aux tenants de la bourse en interne. C'est compliqué.
Voilà. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, là, tu peux réussir. On va passer maintenant au fail de la semaine, qui, pour ma gueule, évidemment, puisque ça parle de Cyberpunk 2077, qui a encore un caillou dans sa godasse, un gros caillou. Alors, ce week-end, encore une fois, c'était vendredi soir, le patch 1.1, donc le premier des deux gros patchs prévus pour le jeu, pour essayer de réparer les choses qui sont les plus problématiques dans le jeu, a été déployé. Donc, beaucoup de corrections, énormément de bugs qui ont été revus, d'ajustements qui ont été faits, mais problème, encore une fois, c'est que comme tous les patchs, toutes les mises à jour, potentiellement, quand vous bougez un truc d'un côté, ça peut en faire bouger un autre de l'autre. Et là, le problème de ce patch, c'est qu'il a carrément cassé une mission de la campagne principale qui plus est, durant laquelle vous recevez un coup de local, un coup de téléphone, et à l'autre bout du fil, votre interlocuteur ne parle pas. Et ça se bloque, et du coup vous ne pouvez plus avancer dans le jeu, et c'est un énorme problème. Même si vous revenez en arrière dans votre sauvegarde, plusieurs joueurs en ont fait état, ça ne change strictement rien. Donc voilà, gros souci. Heureusement, CD Projekt a été mis au courant et a essayé de trouver une solution. Auparavant, Kotaku avait trouvé un moyen de détourner aussi, ou avait partagé un moyen de détourner, à savoir qu'il fallait dans cette mission qui s'appelle Dead on the Street, parler avec quelqu'un d'autre, appelé Judy par exemple, vous savez, le personnage là avec les jolis cheveux roses et verts qu'on voit dans beaucoup de vidéos. Il fallait l'appeler et ensuite attendre pendant 24 heures, puis attendre que le coup de fil ait lieu. Bref, un truc bien relou, bien spécifique.
Tourner trois fois sur soi-même.
Voilà, mais qui est détaillé dans la news qu'on vous a faite de la situation. Bref, faut faire toutes ces choses-là en attendant que CD Projekt Red trouve une parade. On espère.
Et créer un nouveau problème, peut-être.
Ah bah ça va sûrement créer un autre problème, ça c'est certain. Il y aura toujours, c'est vraiment, on se rend pas compte. Hein. On rapporte évidemment le fait qu'il y a un nouveau problème. Mais on ne se rend pas compte, quand on est consommateur ou quand on est joueur, que les jeux vidéo, enfin, que le code d'un site, comme le code d'un jeu, ou c'est un vrai jeu de cube. C'est-à-dire que vraiment, si vous touchez un truc, ça peut casser un autre endroit. Et c'est peut-être pour ça aussi, parfois, qu'on se dit « Ah, mais ça serait facile à patcher pourtant un truc comme ça. » Ben non, en fait, rien n'est jamais super simple. Déjà, ça coûte des choses pour faire patcher. Et en plus, comme on vous dit, ça peut niquer des mécanismes à droite et à gauche. Donc voilà, nouveau problème encore pour Cyberpunk. On imagine que ça va être réglé assez vite. Ça se trouve, au moment où le podcast sera diffusé, ça sera déjà résolu. Et comme dit Thomas, il y aura peut-être encore un autre problème. Tout ça, évidemment, on vous tiendra au courant rapidement.
Si vous vous rappelez, pendant le développement de Breath of the Wild, qui était en monde ouvert aussi, Aonuma avait insisté sur le fait qu'il y avait une version du monde ouvert en ligne sur laquelle tous les développeurs étaient logués en permanence parce que justement la modification d'un élément à un bout de la map pouvait avoir des conséquences puisque la physique était cohérente à l'autre bout. Et comme ça leur permettait justement de très vite trouver ce genre de problème, les repérer et corriger rapidement le tir avant la sortie du jeu. J'imagine que malheureusement CD Projekt n'a peut-être pas forcément pu travailler dans ces conditions-là.
Si tu lis, je crois que c'était dans l'article de Jason Schreier où il parlait justement des conditions de développement, etc. Et il y avait l'air d'avoir une certaine anarchie qui régnait dans le développement, avec parfois des outils qui étaient demandés par certains développeurs, mais on ne leur donnait pas, donc ils étaient obligés de les créer eux-mêmes, etc. Et parfois, tu avais plusieurs versions différentes d'un outil ou d'un shader ou quelque chose avec le même effet, mais qui était implanté en même temps dans le jeu. Donc c'est une sorte de construction un petit peu bancale avec des sortes de rafistolages virtuels qui ont pu être faits dans Cyberpunk. Et évidemment, c'est pas surprenant que quand tu changes un truc d'un côté, c'est ce genre d'effet cascade, l'effet boule de neige un peu désastreux dans le truc. Mais est-ce qu'ils vont réussir, vu l'envergure du projet et l'envergure des travaux qui restent à faire, est-ce qu'ils vont réussir justement à se trouver dans une situation où le jeu sera stable et n'aura plus ce genre de bug, quoi.
Bah, The Witcher 3, des années plus tard, il leur restait des choses à corriger, des quêtes qui n'étaient pas carrément plus à s'activer. J'avais eu ce problème-là personnellement avec une quête que je ne pouvais pas faire, où j'avais un point d'intérêt sur la map, mais quand j'y allais, il ne se passait rien. Et j'imagine que ça va peut-être encore aussi prendre des années pour que le jeu soit totalement propre, tout simplement.
Mais j'aime bien ce petit côté canular téléphonique in-game, tu sais, le genre téléphone sonne, tu décroches, ouais. Rien.
Mais ouais, non, mais après c'est tout un problème de dénicher les problèmes. Déjà, il va falloir faire confiance à tous les joueurs qui vont les rapporter. C'est ce qui peut faire déjà une masse d'informations qui est vraiment très importante. Et puis après, bah ouais, réussir à les régler les uns après les autres sans que ça aille faire foirer quelque chose ailleurs, c'est un travail assez gigantesque. Et on souhaite évidemment des bonnes nuits de sommeil aux développeurs.
Bah là, le problème, c'est que c'est du debugging en temps réel. Tu sais, normalement, enfin dans des conditions normales, avant le développement du jeu, le jeu passe des mois en debugging et comme ça, ils peuvent faire remonter les problèmes, etc. Là, en fait, la situation est tellement désastreuse qu'ils sont, dès qu'ils ont un patch, presque, ils sont obligés de le balancer sans vraiment avoir eu le temps de tester son impact, etc. Donc et en plus, vu ce genre de situation est décuplé par le fait que ce soit un monde ouvert où deux joueurs donnés ne vont pas du tout faire la même chose dans les mêmes conditions, etc.
Donc, exactement.
Il y a tant de cas de figure potentiels, c'est totalement impossible de tout prévoir.
Et c'est exactement ce que je peux dire par rapport à mon expérience personnelle sur le jeu, puisque moi, des bugs, j'en ai pas eu tant que ça. Donc, imagine d'autres personnes qui, elles, n'ont que ça. Tu sais, genre, ils marchent, paf, ils se pètent la gueule tout le temps, il y a toujours un bug. Moi, c'est tout le contraire. C'était genre, ah oui, là, il y a peut-être un mec en anti-pause, mais c'est tout, quoi.
Parce que toi, tu joues comme une démo 3, en fait. Toi, tu restes sur la route, tu roules sur personne, tu fais tout ce qu'il faut faire correctement.
Moi, je suis un peu le Batman des années 60 qui va se garer sur le parking quand il arrive devant chez les flics, tu vois.
C'est bon.
Joli créneau et tout. Oh là, je dépasse pas les lignes. Même s'il y a une urgence, je fais attention. C'est un peu moi, j'avoue.
Je me rappelle, une fois, je jouais à GTA 4 à l'époque sur 360 et je sais pas comment je me suis retrouvé là. Ma voiture s'est retrouvée sur un playground, c'est coincée sur une balançoire et d'un seul coup, la balançoire a propulsé ma voiture dans le ciel. Donc ça, c'est le genre de truc que tu peux pas prévoir.
Ah non.
Donc
Non, c'est pas possible.
La difficulté de la situation est massive.
Ah oui, ça, on ne le dira jamais assez. Bon, et bien maintenant, nous allons pouvoir passer au gros du podcast avec le premier thème. Alors, le premier thème de cette semaine, c'est Resident Evil. Globalement, Resident Evil, mais en particulier Resident Evil Village, puisque le 21 janvier, nous avons eu droit à un showcase de la part de Capcom qui s'est adressé directly to nous, avec énormément d'annonces concernant ce Resident Evil Village qui, je dois le dire, personnellement, me hype énormément, en tout cas beaucoup plus que quand Resident Evil 7 avait été dévoilé, je le reconnais. Il faut dire que j'ai joué au 7 depuis et que, comme je sais que le 7 est génial, enfin, pas loin d'être génial, forcément, ça joue. Romain, je vais me tourner vers toi pour faire un petit, condenser des informations qui ont été diffusées durant cet événement, à commencer déjà par une date de sortie, et ça fait plaisir.
Alors déjà, le 8 bénéficie ne souffre pas de la méfiance qu'on pouvait avoir au sujet
Absolument.
Du 7, donc ça l'aide un peu aussi. Donc la date de sortie, le 7 mai prochain. Donc, mine de rien, ça arrive assez vite. Confirmation aussi d'un truc dont on se doutait un petit peu, c'est la présence de versions PS4 et Xbox One du jeu.
On
s'en doutait un peu de TGS, parce qu'ils avaient fait des déclarations qui le laissaient quand même vachement entendre.
Ça
avec système de mise à jour gratuite. Oui, mais ça fait peur, mais le truc, c'est que c'est le RE Engine, donc c'est le même moteur que RE7, donc ils ont les outils pour proposer un jeu sur
Ouais.
console
Les
de
remakes
la
étaient très propres aussi du 2 et du 3,
génération
enfin,
précédente.
pour les avoir faits sur Current
Oui,
Gen.
bien sûr, mais bon, je sais pas.
Oui, et après, le truc, c'est que Capcom a bien conscience que des difficultés d'approvisionnement dont souffrent la PS5 et les deux Xbox Series, ce qui fait que bah, le parc installé, il n'est peut-être pas forcément suffisamment, même si le jeu sort sur PC aussi, mais le parc sur console n'est peut-être pas assez important à l'heure actuelle pour justifier une sortie exclusivement sur les nouvelles consoles. Donc la bonne nouvelle, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de console next-gen, bah, ils vont pouvoir découvrir ce RE8, enfin Resident Evil Village. Et moi, en fait, la seule chose qui me réjouit vis-à-vis de la sortie sur PS4 et Xbox One,
C'est que tu vas
c'est
payer
que...
10 euros moins cher.
Non, 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 c'est pas ça du tout, c'est que potentiellement, ça rouvre la porte à une version VR sur PlayStation, parce que Capcom n'a pas du tout évoqué ce sujet pour l'instant. Si le jeu était sorti que sur console next-gen, sachant qu'il n'y a pas encore de PSVR 2 et que la Xbox n'a pas du tout de casque, bah, je me disais, c'est peut-être mort pour la VR. Bon, pour l'instant, ils n'en ont pas du tout parlé, donc je croise les doigts, parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit que la VR sur PS5, c'est considéré comme de la rétrocompatibilité. En fait, c'est pas, tu peux pas avoir un jeu PS5 compatible avec le PSVR One. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si on veut avoir de la VR qui fonctionnait extrêmement bien dans RE7, bah, il faudra que ça passe via la version PS4. Donc, ils n'ont rien annoncé. Donc, je croise les doigts à ce sujet-là. Donc, pour en revenir au sujet de base, donc 7 mai avec version et old-gen et current-gen, parce que maintenant la PS5 et la Xbox Series, c'est la current-gen. Démo sortie tout de suite, c'est-à-dire la démo Maiden sur PS5 et uniquement sur PS5. Il y aura une seconde démo sur toutes les plateformes qui, elle, arrivera au printemps, donc c'est pas pour tout de suite. Moult, édition collector, etc., avec divers produits et bonus, aussi bien in-game que physique en fonction des versions. Autre annonce, la présence, sans s'en douter aussi un petit peu, vu les inscriptions à la bêta fermée quelques jours auparavant, donc la présence dans RE Village d'un mode qui s'appelle R-Reverse, donc Reverse, qui est la 68e tentative de Capcom de créer une expérience multicompétitive dans le monde de Resident Evil. Est-ce que c'est cette fois que ça va prendre? Je ne pense pas.
Bon, on en
Mais
parlera juste après. On va
après,
redérouler tout ça. Et le dernier truc, c'est
le dernier truc, c'est quoi? C'est le partenariat avec
The Division 2.
avec The Division 2.
Voilà, vous avez encore ce sourire. Dès que c'est Ubisoft, vous deux, là, tous les deux, ouais, toi aussi, Thomas, je te
J'ai rien
vois,
dit.
vous souriez à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe?
Because
Qu'est-ce qui se passe? What
such amazing games, thank you, thank you.
Bon.
Non, un bonus, donc un event in-game dans The Division 2 qui permettra de débloquer des tenues célèbres de Resident 1, 2 ou 3, des skins d'armes, etc. Enfin, de la microtransaction en veux-tu, en voilà. Donc, et il y avait aussi les premières images
Du film
Les premières
d'animation
images du
Netflix.
film d'animation Netflix qui s'appelle Resident Evil.
Ah
Le nom
oui.
échappe. J'ai oublié.
Je sais
Mais.
pas, ça finit en Asian généralement, donc
C'est un. C'est un Dark, ou Dark. Non, pas Dark Fate. Non, ça c'est Terminator. Je sais plus. C'est avec un film d'animation avec Léon et Claire. Après, j'ai oublié parce que pour avoir vu les précédents films d'animation RE en images de synthèse, c'était pas terrible à chaque fois. Donc ça m'a pas.
C'est Infinite Darkness.
Infinite Darkness, donc ça m'a pas
Ouais, c'était assez
marqué.
générique pour qu'on s'en souvienne pas comme ça immédiatement.
Je vais dire et pourtant Dieu sait que j'adore Resident, mais le dernier en date là, j'ai avec Léon et Chris, je l'avais vu au cinéma à l'avant-première. Je me suis endormi pendant la séance. Je suis réveillé un moment, je me dis, oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté une partie du film. Non, franchement, leurs films d'animation sont vraiment pas terribles. Bon, cela dit, leur film live action jusqu'à présent n'était pas terrible non plus. Donc, c'est une série qui n'a pas vraiment eu de chance en termes d'adaptation. Les bouquins étaient très chouettes, parce que j'ai lu tous les romans. Les bouquins étaient bien. Mais
Bon,
bon, c'est
on va
un peu leur
revenir
budget. On
on
va
va
raconter
revenir un
ça.
petit peu sur tout le déroulé donc de cette émission. On va commencer par la démo. Voilà, après avoir parlé de la date de sortie et des versions current gen. La démo, donc, Maiden. Alors, je crois que je suis tout seul ici à l'avoir essayé, si je ne m'abuse. Eh bien,
Je vais
très
le
bien.
faire. Bah, elle est
Je l'ai
dispo que
pas.
sur PS5, donc pour moi c'était un peu compliqué.
Bah, t'es où là?
À la rédac.
Bah alors.
Mais il paraît qu'on a tu sais, un truc là qui nous occupe une partie de la journée. Ah oui, un boulot, c'est ça.
Ah oui, c'est vrai, tu
Il
m'as convaincu.
fallait que je retrouve le terme.
Ouais, bah oui, forcément, vu que c'est pas trop. Oh, pardon, excusez-moi, on va pas s'engueuler ici. Maiden, donc première démo pour Resident Evil Village que j'ai pu essayer, ça dure pas très longtemps. C'est pas exactement une démo pleine d'action. En fait, c'est une démo de fuite, de pure fuite, dans laquelle, un peu comme la première démo d'ailleurs de Resident Evil 7, hein, vous allez juste errer dans un endroit pour vous imprégner un peu de l'ambiance qui va se dégager du jeu. La démo de Resident Evil 7, vous incarniez pas du tout le héros de Resident Evil 7 et Ethan Winters. Là non plus, vous incarnez une jeune fille qui se réveille dans un cachot. Bien sale, bien dégueu, avec des cadavres un peu partout autour, des seaux remplis de sang, la pierre est pourrie, les barreaux sont dégueulasses, il y a des objets de torture un peu partout. Bon, vous comprenez pas très bien ce qui se passe et c'est fait pour de toute manière. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver les objets qui vont vous permettre d'avancer petit à petit. C'est pas compliqué du tout. Trouver une clé, trouver d'autres choses, genre un joyau au fond d'un gobelet pour pouvoir le mettre sur une statue et ah bah comme par hasard ça ouvre une porte. Bref, ce genre de truc. L'idée, comme je vous le dis, c'est vraiment de s'imprégner de l'ambiance, de savoir qu'il y a des personnes qui vous observent pendant que vous vous déplacez, qu'il s'est passé des trucs bien crades. Vous arrivez à apprendre donc que vous êtes dans un château, le château de Dimitrescu, et nous reviendrons sur ce nom tout à l'heure. Et bah voilà, le but c'est de s'enfuir. Vous arrivez vers la fin, vous commencez à vous faire agresser par une jeune femme, puis une deuxième arrive avec son joli chapeau et sa robe bourgeoise début 20e siècle. Et c'est là que ça se termine. C'est très court vraiment, mais ça permet de se faire une bonne idée. Déjà, la première, c'est que la réal est encore une fois vraiment très très bonne. C'est assez joli, vraiment, que ce soit le cachot et quand on arrive un peu plus dans le château, dans les endroits, on va dire, un peu plus riches, un peu plus bourgeois, ou voire même aristocrates. Seule chose qui dénote un peu, c'est qu'on a un miroir qu'on croise à un moment où il n'y a pas de reflet. Donc ça, c'est un peu étrange. Peut-être que ça sera
C'est peut-être
activé.
justifié scénaristiquement après.
Je pense pas. Je
Savez,
pense.
les vampires n'ont pas de reflets, ce genre de
Ouais, mais
truc, il y a
y a
peut-être
rien,
que
y a
ça.
rien qui est reflété, même pas le décor, hein.
Ça va être
C'est-à-dire
justifié aussi bien que la tenue de Quaid dans MGS5.
Non, mais je pense que ouais, c'est juste qu'à ce moment-là, ils ne l'ont pas intégré. Peut-être que ça aurait bouffé un peu plus de ressources, je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà assez efficace. Et évidemment, comme c'est Capcom et comme ils nous ont fait le coup avec Resident Evil 7, vous vous souvenez avec le doigt. Eh bien, là, maintenant, on a un collier dont on ne connaît absolument pas l'utilité, un espèce de collier qui est censé être protégé contre les mauvais esprits. Alors, ça marche pas dans la démo, hein, puisque on se fait quand même. Enfin, la fin est un petit peu sans espoir. Et donc, bah, probablement que là où les prochaines démos, avant la sortie du jeu, vont nous permettre d'avoir une idée de ce que peut faire ce collier pour débloquer peut-être encore des nouvelles informations à propos du jeu ou peut-être débloquer un objet après quand on aura le jeu final. C'est tout un tas de choses encore qui restent à voir. En tout cas, ça fait très, très envie. Et nous parlerons évidemment de Lady Dimitrescu tout à l'heure.
Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la démo, parce que dans les quelques phases de gameplay qu'on a pu voir pendant le direct, alors qu'étaient évidemment des phases de jeu avec Ethan, le personnage principal, on avait quand même l'impression d'un personnage un peu en retrait qui subit énormément les événements plus qu'il n'y participe réellement. Est-ce que toi, tu as eu cette impression-là pendant la démo, même s'il n'y avait pas de combat ou de phase de gameplay particulière?
Ah bah la démo, tu subis complètement, oui. De toute façon, c'est le but, hein. Là, c'est du. Enfin, je sais pas, c'est comme Outcast, quoi. Tout ce que tu fais, c'est essayer de trouver le bon chemin et suivre. Enfin, on essaie de faire croire que y a un sentiment d'urgence, que t'es poursuivi. Là, il n'y a pas de séquence d'infiltration, par exemple, dans cette démo. C'est vraiment juste, tu marches. Il y a une menace qui pèse, des petits bruits, des chuchotements, d'autres bruits un peu plus dégueulasses, et c'est tout quoi. C'est vraiment
C'est presque plus technique qu'autre chose, finalement.
Exactement. C'est ambiance et technique, essentiellement. Pour cette
mais fois. Ça marche bien, parce que de ce qu'on a vu pour l'instant, l'ambiance... Enfin, en tout, je parle pour moi, mais ça a l'air d'être un des gros, gros points forts de cet épisode-là. Enfin, moi, j'ai été très, vraiment conquis par ce qu'on a pu voir en termes de décor, etc. Ça fait très, très, très envie.
Oui, ils l'ont dit pendant le showcase, que la démo, justement, son but, c'était de montrer l'atmosphère et l'environnement dans lequel se déroule l'aventure. Et c'est vrai que des survival horror, enfin déjà des Resident et des survival horror d'une manière plus générale, dans ce type de cadre... C'est assez rare, parce qu'en plus, après, j'imagine que ce qu'on a vu dans le showcase, ça représente qu'une partie de l'aventure, parce qu'on sait que dans Resident, tu as toujours plusieurs bâtiments, plusieurs lieux que tu traverses. Mais le château a l'air en super état, en fait. Et même ce type de décoration européenne, noble, enfin de la noblesse presque, c'est assez rare et c'est très détaillé.
Ça fait beaucoup penser au 4, je trouve, en termes de décor. Pour
absolument.
Déjà, c'est l'Europe. Donc, forcément.
Le village, le château juste à côté. Enfin, moi, ça m'a vraiment rappelé en tout cas, l'introduction du 4, les premières zones qu'on pouvait explorer. Et pour le coup, c'est plutôt un bon point parce que c'est un épisode fantastique.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça qui rappelle le 4 dans ce jeu. Visiblement, c'est une inspiration qui n'est même pas cachée. Hein. C'est la gestion de l'inventaire, déjà. Et le retour d'un marchand. C'est plus du tout le même marchand, mais...
Très joli chara-design.
Ouais, j'allais dire, le marchand fait beaucoup penser au 4 aussi, en termes de chara-design. Hein.
Mais un type encore plus improbable. Tu te demandes encore plus ce qu'il fait là, surtout que là, il a un espèce de cadre avec lui. Tu sens qu'ils ont encore un peu plus, j'ai l'impression, de travailler leur personnage. On sait qu'il y a toujours des personnages marquants dans les Resident Evil. Là j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir affaire à une galerie assez mémorable d'antagonistes et de protagonistes.
Je trouve qu'il fait très Platinum Games, le marchand, le chara-design du marchand, et même sa manière de se mouvoir, son visage, tout. Je trouve qu'il me fait penser à un personnage qu'on aurait pu voir dans un Bayonetta, par exemple.
Les menus, d'ailleurs, les menus avec ces textures roses et un côté, justement, un peu, pas gothique, mais gothique chic, quelque part, ça fait un petit peu Platinum aussi, c'est vrai.
Sachant que c'est des anciens de Capcom, donc tout se recoupe.
Ouais, et il me semble que le studio avec lequel Capcom s'est associé pour RE3, c'était justement un ancien de Capcom qui était allé chez Platinum et qui est reparti ensuite.
Il était président de Platinum.
Ouais, donc tu vois, tout finit. Même si on ne sait pas si ce studio sera impliqué dans RE8, mais enfin, il y a une base commune, un ADN commun qu'on peut retrouver. Et donc, il disait aussi dans la gestion de l'inventaire qu'il y avait aussi le crafting. Alors, il parlait des munitions et des soins. Finalement,
depuis,
ça a toujours...
le premier épisode, oui.
Voilà, ça a toujours été un peu comme ça dans Resident. Donc, je ne sais pas ce qui change vraiment en termes de crafting. Peut-être qu'il y a besoin de plus d'ingrédients pour créer les différents objets.
Ouais, j'ai cru comprendre que ce serait un crafting qui serait peut-être séparé justement de la manière qu'on a traditionnelle d'associer différents types d'herbes pour créer un spray ou ce genre de truc. Parce que je me suis posé la même question que toi en voyant quand ils ont balancé l'info. Tu dis, bah oui, mais en fait, on le fait depuis quasiment le premier épisode. Pas pour les munitions, mais j'ai l'impression que ça va être un sous-menu, en tout cas. Il y a peut-être des choses que tu pourras récolter au fur et à mesure qui vont te permettre en plus de crafter des munitions plus que tu ne pouvais le faire via les menus classiques.
Après, pour les améliorations d'armes, etc., dans les derniers remakes, par exemple, il y avait des tables de crafting qu'il fallait trouver pour pouvoir améliorer les armes, etc. Donc ça aussi, bon, visiblement, vu qu'ils insistent là-dessus, je pense que ça va être fait différemment, mais reste à voir. Ils ont parlé aussi du mécanisme de défense. Ça, jusqu'à présent, il n'y avait pas dans les Resident, et donc on pourra se protéger comme ça pour repousser
dans
certaines...
Dans le 7, on peut pas se protéger dans le 7 ?
Je crois pas, non. Je crois, de mémoire, tu as des sortes de quick time, tu sais, quand tu te fais attraper, le truc pour pouvoir repousser et que ta santé est suffisamment élevée pour pouvoir le faire, mais il me semble pas qu'il y avait vraiment de blocage comme ça, comme on peut le voir. Et d'ailleurs, dans les extraits gameplay qu'on pouvait voir, il y a certains ennemis qui tenaient des armes. Je crois qu'on voit un ennemi avec une épée. Donc ça va. Ils veulent changer un peu la manière de gérer les affrontements. Il y a aussi pas mal de questions qui se posent vis-à-vis de l'intrigue. On sait que la Ethan va devoir chercher sa fille, un bébé qui se fait enlever au début du jeu, apparemment par Chris. C'est ça qui est bizarre. Chris qui a encore une fois changé d'apparence. Parce que Capcom ne sait vraiment, visiblement pas trop quelle tronche donner à son héros historique. Parce qu'il n'a pas la mèche immortelle comme celle de Léon qui n'a pas changé de coupe de cheveux depuis 25 piges.
En même temps, ce n'est pas la série la plus réaliste du monde, tu vois. Donc, on est plus à une incohérence près dans Resident.
Ah bah là, les incohérences sur l'apparence de Chris Redfield, même entre le 7 et le 8, il a complètement changé. Donc, les artworks montrent que le fameux loup-garou qu'on voit dans le truc, ça a l'air d'être Chris. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est un peu étrange, mais il y a pas mal d'interrogations qui existent autour de RE Village et cette fameuse Lady Dimitrescu. Je le prononce pas aussi bien que toi, Plumeau, j'ai pas
Dimitrescu,
qui a l'air totalement massive et imposante, même si ça n'a pas l'air d'être elle qui tire totalement les ficelles, parce qu'on la voit au téléphone.
Elle a l'air de répondre à quelqu'un qui lui est supérieur, a priori.
Oui, qui a l'air de lui couper la parole même et qui lui dit non, tu vas faire ça et c'est pas autrement, donc c'est ça. Et,
mais quel design, je veux dire, quelle idée de génie, je veux dire, dès le départ, dès la première vidéo qu'on a vue pour annoncer le showcase, c'est le détail qui a choqué le monde, c'est. En fait, quand elle est prise en contre-plongée comme ça, ou en plongée, non, c'est plongée, hein, ça. Quand elle est prise en plongée, tu te dis, ah ouais, elle est peut-être un peu plus grande que ses filles. Et en fait, tu la vois passer sous une porte de son propre château et elle est gigantesque. Et là, tu te dis déjà, mais d'où sort ce personnage, quoi? Le chara-design est d'une espèce de bourgeoise gigantesque, comme ça, qui est probablement un vampire, d'ailleurs. Au passage, c'est assez fascinant et on a vu après sur le net beaucoup beaucoup de monde qui dit ah ouais Lady Dimitrescu, j'adore, vas-y fais-moi des enfants, enfin bref, tout ce genre de choses.
Il y a déjà du cosplay.
Il y a déjà du cosplay.
J'en ai même là parce que pour tout vous dire, j'ai Twitter qui défile sous mes yeux en même temps que je vous parle et j'ai vu un cosplay il y a 5 minutes de Lady Dimitrescu.
Quelle classe.
Et on en parlait juste avant d'enregistrer le podcast. La question que moi je me pose, et un truc que j'adorerais, c'est que ça soit la version, une nouvelle version en fait du Mr. X. Que cette femme gigantesque, très élégante, très snob, vous poursuive pendant l'aventure. Bon, visiblement, elle envoie ses filles vous chasser avant. Mais une fois que ça s'est réglé, qu'elle vous poursuive pendant l'aventure. Et vous parle en même temps avec sa manière très hautaine et qu'elle vous trolle, de manière snob pendant toute l'aventure, tout en essayant de vous attaquer et de vous tuer. Moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'elle traverse un mur avec sa grande robe et son chapeau, un peu comme le faisait Mr. X ou Nemesis ou même le père de famille dans R7 qui, à un moment, au début du jeu, traverse un mur quand vous êtes dans un couloir. J'aimerais bien. Après, c'est un gimmick maintenant qu'on connaît un peu dans les Resident, mais avec un perso avec une telle apparence et une telle prestance, ça ajouterait un truc et ça pourrait être rigolo.
Surtout qu'elle galère, enfin. À moins qu'elle ait d'autres pouvoirs, évidemment, de vaporisation, transformation en chauve-souris ou je ne sais pas quoi. C'est juste, tu l'imagines qu'à chaque fois qu'elle va te poursuivre, elle va galérer pour passer sous une porte. Quoi. Et ça, c'est génial. Rien que ça, tu vois, toi, tu es en train de courir, puis tu dis, ah bah c'est bon, j'ai 10 secondes, il faut qu'elle passe d'abord sous la porte.
Ouais,
comme
mais
ça,
mec, pense aux enjambées qu'elle va pouvoir faire.
Oui, ça, si elle se met à courir.
Elle fait deux pas, elle t'attrape par le col et puis c'est terminé. Hein.
Ah, mais peut-être que c'est ce qu'on veut. Ouais. Ça vous y réfléchissez. Ah, peut-être.
Elle a des lunettes ou pas, Non, je crois que
non. Elle a pas de lunettes. Ouais. Mais peut-être que c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est un filon. Lady Dimitrescu est un filon pour Capcom. Ils ont moyen d'établir un personnage qui va peut-être faire date et qui va peut-être faire le jeu, tout simplement.
Ça me fait rire ce que tu disais il y a deux secondes, Plumeau, parce que j'ai vu un TikTok justement là-dessus, où le mec il se mimait en train de jouer à Resident 8. Donc tu le voyais en train de tenir son flingue et de trembler comme ça au coin d'une porte. Et il passait un couloir et là il tombait face à Dimitrescu. Donc la caméra le prenait de haut. Et à partir du moment où il la voyait, il arrêtait de trembler. Il était tout content d'un seul coup de se faire alpaguer par ce monstre, parce que enfin, je serais très étonné qu'elle ne se transforme pas à un moment ou à un autre du jeu. C'est...
Alors déjà, vu ce qu'elle fait avec ses doigts à la fin de la démo, c'est voilà, bon, c'est au moins ça déjà, c'est réglé.
Et vu qu'elle est déjà immense de base, j'ose pas imaginer la taille qu'elle fera post-transformation.
Et ce qu'elle cache, ouais.
Et heureusement, les trailers comme ça, surtout quand ça fait partie des premiers, l'idée, c'est pas de tout révéler aux joueurs et de montrer qu'un truc qui se passe sur une toute petite partie de l'aventure. Parce qu'on repense à RE7, ce qu'on voyait dans les trailers, finalement, ça se concentrait sur le tout début du jeu, parce que l'aventure nous menait bien plus loin après, aussi bien en termes d'environnement que d'histoire. Donc, je pense qu'on
et
est...
Et tant mieux. Je préfère qu'ils gèrent leur communication comme ça et que justement, on ait plein de trucs à découvrir, les trois quarts du jeu qu'on n'aurait presque pas vu visuellement, c'est plus intéressant. Enfin, on attend des surprises, on attend évidemment de flipper, d'être interpellé par plein de choses. Donc, j'espère qu'ils vont refaire le coup pour Resident 8.
Ouais. Tu vois, moi, le coup des sœurs là, qui se transforment, j'ai l'impression des chauves-souris ou je ne
sais en pas. Insectes.
C'est des insectes, c'est des nuées d'insectes.
Moi, je ne serais pas étonné que ça soit dans le premier quart du jeu. Les affrontements avec ces personnages-là. Alors après, le jeu a fuité il y a quelques mois. Enfin, il y a pas mal de cinématiques. Je crois qu'il y a même la fin du jeu qui est en ligne. Moi, j'ai pas été du tout voir ces trucs-là parce que là encore, je préfère me garder la surprise pour la version complète du jeu. Mais donc oui, il y a peut-être déjà des réponses à ces questions en ligne, mais je préfère attendre.
Très bien. Ensuite, de quoi peut-on pas. Ah oui, j'avais oublié. Reverse.
T'es pas le seul.
Reverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Reverse à part Dick Reverse? Non.
Tu peux le dire.
On peut la faire. Ah, bah, d'ailleurs, on fera un Photoshop dès que vous pouvez, évidemment. Donc, Reverse, encore une tentative de Capcom de faire du multi coopératif à plusieurs équipes sur l'univers de Resident Evil. Alors, là, ils misent sur l'effet All-Stars. En convoquant les personnages iconiques de la série. Mais très honnêtement, peu importe la façon dont ils s'y prennent, moi, quand je vois ça, je me dis, mais ça ne sert à rien, quoi.
Bah,
je suis
déjà,
désolé, hein, mais je n'adhère absolument pas à l'idée de ce genre de choses pour Resident Evil. Je vous ferai part après d'autres idées qui pourraient être exploitées, mais là, comme ça, est-ce que vraiment vous imaginez que des gens vont acheter le jeu en se disant « Ah ouais, chouette, Reverse, je vais y passer du temps ».
Non.
Voilà.
Tu vois, pour le coup, je trouve même, avec tous les défauts qu'il avait, je trouve même le mode du remake de RE3, Résistance, je trouve le concept plus intéressant et plus original que ce qu'on visiblement on va avoir avec Reverse. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le truc, qui n'ont pas suivi, c'est du multi-compétitif qui oppose deux équipes dans des décors célèbres de la série avec des personnages eux aussi venus des différents épisodes. Vous pourrez jouer avec Léon, vous pourrez jouer avec Claire, vous pourrez jouer avec Chris, vous pourrez jouer avec Hunk, vous pourrez jouer avec Jill, enfin des personnages comme ça. Et apparemment, quand vous subissez une quantité donnée de dégâts, et ben là votre personnage se transforme et là d'un seul coup vous incarnez un ennemi qui est lui aussi très très célèbre, genre le Némésis, William Birkin, des sortes de monstres qu'on pouvait voir dans RE2 et RE3, enfin plein de créatures, ou même le père Baker de RE7. Et c'est ça l'idée. Et quelqu'un a remarqué sur Internet, et j'ai vu ça, et c'est assez juste, c'est qu'en fait, les environnements de Resident sont relativement fermés. Enfin, les couloirs ne sont pas très larges.
Étriqué,
les pièces,
ouais.
Voilà, c'est étriqué. Et ça ne se prête pas du tout à du multi-compétitif où les zones sont plus ou moins ouvertes. Donc, la solution que Capcom a trouvée pour ça, c'est de réduire la taille des personnages. Si vous regardez, rematez la vidéo, vous vous rendez compte que l'échelle des personnages a été grandement réduite pour les faire tenir dans ces maps et permettre des affrontements entre joueurs. Et autre chose, c'est qu'à la base, à Reverse, c'est un jeu PS4 et Xbox One. Donc sur PS5 et Xbox Series, il tournera via la rétrocompatibilité. Et visuellement, c'est vraiment pas folichon, quoi. Ils ont l'air d'avoir donné un petit côté comic book, vieux comic book. au truc avec des traits noirs très prononcés, des effets un peu, un filtre un peu sur l'image, peut-être pour cacher la misère, je sais pas. Ouais, ça fait pas rêver. Et je pense, connaissant Capcom, que quand ça va sortir ce truc-là, on va avoir le droit à un, tu sais, un calendrier, comme ils aiment bien le faire, avec mois par mois, le contenu qui va être ajouté. En gros, tu auras en partie du contenu gratos, mais tu auras aussi des microtransactions en veux-tu, en voilà. Et je pense que ça ne va pas marcher, parce que les fans de la série, ce n'est pas ce qu'ils attendent d'un Resident. Alors, je comprends pourquoi, d'un point de vue business, Capcom veut essayer de rentabiliser son truc encore plus. Mais c'est exactement ce dont on parlait au début du podcast. Mmh. Tu sais, ce côté chausse-pied où tu veux absolument faire rentrer un truc là où ça ne veut pas forcément rentrer. Et je pense que ça ne va pas prendre.
Alors, pour prendre leur défense, ils essayent depuis tout un tas d'épisodes de justement forcer un petit peu ce côté multi. Ça ne se fait pas au détriment de l'aventure principale, donc on peut continuer, voilà.
Oui, mais c'est quand même des ressources et de la main d'œuvre qui est attribuée à quelque chose qu'on peut déjà, sans même avoir fait d'études de gestion ou d'économie ou de marketing, on peut déjà se dire que c'est voué au mieux à un semi-échec, au mieux. Oui. Donc voilà, pourquoi insister là-dessus ?
Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à espérer un coup de poker avec un jeu qui cartonnerait sur Twitch, par exemple. On voit bien qu'il y a énormément de studios, de devs qui l'intègrent à leur réflexion au moment de concevoir du multi. Et j'imagine que chacun espère justement tirer son épingle du jeu là-dessus.
Pourquoi pas faire, comme le disait Romain, quelque chose d'original au moins, quelque chose qui changerait un petit peu des habitudes d'un simple deux équipes l'une contre l'autre.
Là, ça demande du temps et de l'argent.
Le truc original pour eux, c'est la transformation des personnages en ennemis en cours de partie. Mais le problème, et ça revient une fois encore sur ce qu'on disait au tout début de ce podcast, c'est que c'est pas organique. Le truc est conçu justement pour Twitch. Le truc est conçu pour faire des vidéos, pour faire des moments marquants sur YouTube.
C'est
pas comme ça que ça marche, en fait. C'est l'inverse.
C'est là qu'il faut s'inspirer peut-être d'autres jeux avec des grosses ficelles. C'est peut-être un peu abusé, mais tu penses à un Among Us. Tu vois, tu prends les jeux qui cartonnent ces deux dernières années ou ces derniers mois. Tu prends un Among Us, t'adaptes ça à une autre sauce. T'en fais une espèce de loup-garou dans Resident Evil avec un groupe de survivants. Et dans le groupe de survivants, il y a un membre d'Umbrella. T'essayes de, je sais pas, de créer des barricades ou je sais pas quoi, et il y en a un, son but, lui, c'est de tout faire foirer. Ça crée déjà un système de jeu qui est différent et qui peut être intéressant en étant intégré en plus à une histoire, tu vois, en essayant de raconter quelque chose. Tu fais un truc à la Phasmophobia, ou tu fais une enquête avec d'autres personnages, où tu gardes cette vue à la première personne dans un des endroits du château où tu dois essayer de dénicher une bestiole, sachant qu'il y a un bestiaire qui a l'air assez étoffé en plus dans Village. Pourquoi pas? Tu peux essayer de créer quelque chose d'un peu moins basique que ce que Capcom veut faire et qui pourrait vraiment, comme je vous dis, s'inscrire dans l'idée d'un Resident Evil.
Voilà, après, leurs tentatives passées n'ont pas été couronnées de succès. Du coup, je comprends aussi qu'ils n'aient pas non plus envie d'y investir énormément de temps et d'énergie parce que, comme le disait Romain, de base, ce n'est pas un mode qui fait rêver. La perspective de jouer en multi à un Resident, ce n'est clairement pas l'ADN de la série. Donc, à la limite, ils n'y consacrent pas trop de temps non plus puisque... j'espère pour me tromper, mais ça ne va pas avoir un succès.
Je pense qu'en termes de programmation, les deux possibilités de faire un loup-garou ou un truc d'enquête, je pense pas que ça leur bouffe énormément de temps. En tout cas,
après, le succès d'Among Us, il est récent, tu vois. Donc, le développement et l'architecture de la partie multijoueur avait déjà été décidé, je pense, bien avant.
Le succès du loup-garou, lui, loup-garou de Tiercelieu, ça fait quand même quelques
décennies. Ça fait quelques décennies. Voilà,
le risque, ça serait aussi d'être taxé de pâle copie.
Ouais.
Si tu prends un truc qui s'inspire trop clairement de ce que fait les choses. Après, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, et c'était il y a longtemps, et l'époque ne s'y prêtait pas forcément parce que la technologie n'était pas encore au point, c'est ce que Capcom avait appelé Resident Evil Online, ce qui est ensuite devenu Resident Evil Outbreak sur PS2. Moi, la première fois que j'y ai joué, c'était une démo en LAN à une expo au Palais des Congrès où il y avait 4 PS2 qui étaient reliés en LAN. Et là, pour le coup, c'était pas vraiment du compétitif, c'était du coopératif où tu avais 4 joueurs qui essayaient de s'en sortir en fait ensemble. Et ce qui était marrant, c'est que si tu te faisais mordre par un zombie, tu avais ton taux d'infection qui augmentait progressivement. Alors, tu pouvais essayer de sauver la personne, mais si le truc atteignait les 100%, ben ensuite, elle pouvait incarner un zombie pendant quelques minutes. Et ce qui était marrant, c'est que comme ce n'était pas les héros historiques de la série que tu incarnais là-dedans, bah, en fait, tous les objets quasiment que tu pouvais trouver pouvaient te servir pour essayer de t'en sortir. Et moi, je me souviens bien, je m'étais fait becter et à la fin, mon personnage, il rampait par terre, il n'en pouvait plus. Et il y a mon pote qui était arrivé avec un balai dans les mains pour essayer de m'aider dans cette situation. Et ça avait donné des trucs assez cocasses et vraiment marrants. Et donc, je pense que si tu peux reprendre une idée comme ça, que tu développes avec la technologie actuelle et que tu... Et que tu conserves vraiment l'ADN de Resident et ce que c'est. Mettre la catastrophe de Raccoon, par exemple, au niveau des humains lambda qui étaient dans la ville, étaient dans la ville à ce moment-là. Tu peux ajouter une dimension multijoueur tout en respectant ce que les gens apprécient dans la série, sans essayer de faire un truc comme Reverse, qui est déjà moche comme un pou, et qui n'a pas l'air du tout intéressant d'un point de vue
Outbreak gameplay. Était un jeu à part entière, c'était pas un mode.
Oui, c'était
la conception dès le départ était forcément un petit peu différente et ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de multi dès le départ. Et j'allais dire, heureusement aujourd'hui, je pense qu'ils ne se risqueraient pas à faire un épisode entièrement multijoueur de Resident, même un spin-off.
Après Outbreak, quand c'est sorti, tu pouvais y jouer aussi en
solo. Tu pouvais y jouer en solo.
Mais ça perdait forcément de son. D'ailleurs, je crois même que le premier Outbreak n'était même pas jouable en ligne en Europe. Je crois qu'ils avaient retiré, cette fonctionnalité.
Oui, premier, oui.
Ça marchait pas encore chez nous. Mais donc, il y a des possibilités vis-à-vis du multi et du jeu en ligne autour de la licence. C'est juste que je pense que Capcom regarde pas au bon endroit pour l'instant, pour diverses raisons, dont celles de budget de développement, aussi du fait que ça soit un add-on et pas le mode multi d'un jeu solo à côté, etc. Mais en tout cas, comme tu disais, Thomas, heureusement que pour l'instant, ça se fait pas au détriment de l'aventure solo principale. Ils avaient essayé Opération Raccoon City, ils ont déjà essayé des jeux comme ça, mais c'était pas développé en interne, c'était des trucs...
C'était des projets de moindre envergure.
Voilà.
Bon, eh bien écoutez messieurs, je pense que Resident Evil nous hype, le village nous hype.
Tout à fait.
En tout cas, une partie de son offre nous hype, l'autre on va essayer de...
ça compte quasiment pas.
Ouais, bon en fait, moi je m'en fous. Donc voilà. Et nous allons passer maintenant au thème numéro 2, forcément. Le thème numéro 2 avec Microsoft, Xbox, toujours, je ne vais pas dire toujours au top, mais en tout cas toujours capable de nous étonner, vraiment de nous étonner, dans des proportions incroyables. On va reprendre le fil de l'actualité.
Il n'y a que toi qui fais ça.
Thomas,
ça leur irait bien.
Que s'est-il passé vendredi ?
Eh bien, vendredi soir, la semaine allait se terminer de manière tout à fait classique. Et d'un coup, pif paf badaboum, eh bien, Microsoft annonce, alors d'abord aux États-Unis uniquement, et puis finalement en Angleterre et pour le reste de l'Europe, une augmentation globale de tous les tarifs de l'abonnement Xbox Live Gold, que ce soit dans sa version mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Tous les tarifs allaient grimper, et pas qu'un peu, puisque pour l'abonnement 6 mois, on passe d'un coup d'un seul de 29,99€ à 47,99€ pour la même période de temps. Derrière ça, on sentait de toute façon que Microsoft faisait un petit peu tout ce qui était en leur pouvoir pour pousser les gens vers le Game Pass. Mais là, on va dire que la manœuvre a été tellement brutale, tellement sortie de nulle part, que ça a forcément braqué une partie des joueurs, quand bien même ils auraient pris le soin de rappeler justement au tout début du communiqué que le tarif n'avait pas augmenté depuis 10 ans. Là, le choix qu'ils ont fait, ça a été bien d'attendre des années et des années pour d'un coup augmenter les tarifs sans préparer le public à ce que ça arrive.
Ah, puis ça, c'est avant le week-end, quoi. Toi, tu te prépares à rentrer chez toi après ta journée de boulot, évidemment, si tu n'es pas chez toi en télétravail. Et là, juste avant le week-end, on te dit, ah bah, mais finalement, tu vas payer le double maintenant. C'est quand même ça, c'est pas sympa, quoi. Pas au moment où tu rentres chez toi.
Je me demande si c'est pas une fuite entre guillemets qui leur a forcé la main, parce que il y a un site, je crois que c'est VGC, mais je suis pas certain à 100%, qui a en fait reçu des photos prises dans un magasin, tu sais, des cartes prépayées que tu peux acheter, etc., où il y avait justement les nouveaux tarifs, et je pense que c'est ça qui a un peu lancé la machine et qui a peut-être poussé Microsoft à faire son annonce plutôt
que... Il n'y avait pas un bon moment particulier pour l'annoncer en même temps. Je veux dire, c'est une pilule qui a du mal à passer. Et on a vu les réactions qui ont été mais immédiates. Ça a été un tollé assez général parmi les joueurs qui l'ont immédiatement reproché. Et évidemment, on le comprend. Et du coup, bah, très rapidement, Microsoft a été obligé de faire machine arrière, de balancer un nouveau communiqué qui annule tout. Annule et remplace purement et simplement tout ce qui s'est fait. Donc, aucun des tarifs cités ne va augmenter. Et même au-delà de ça, ils ont précisé que là où auparavant il fallait être abonné au Xbox Live Gold pour pouvoir jouer en ligne à n'importe quel type de jeu, y compris les free-to-play, eh bien, à partir de maintenant, les jeux free-to-play au pif Fortnite n'auraient plus besoin justement de cet abonnement pour être joué en ligne sur les consoles Xbox. C'est-à-dire qu'il va y avoir même des joueurs qui peut-être n'auront plus la nécessité de s'abonner au Xbox Live Gold, alors en perdant évidemment les quelques avantages qu'il y a autour, puisqu'on a aussi des jeux qui arrivent tous les mois via cet abonnement. Mais déjà en termes d'annonce et de crédibilité de parole, ils ont réussi à se vider un chargeur entier dans le pied pour le coup, parce que je pense que ça va leur faire mal et ça va rester très très longtemps dans la tête des joueurs. On comprend quelque part la volonté d'augmenter des tarifs qui n'avaient pas bougé depuis une dizaine d'années, mais pourquoi le faire de cette manière-là? Pourquoi attendre et tout balancer d'un coup là où on aurait pu faire quelque chose de graduel? Et en plus, tu parlais, Plume, du contexte. Mmh. En période confinatoire avec énormément de chômage partiel ou ce genre de choses, on sait que beaucoup de joueurs se sont tournés justement vers le jeu en ligne pour eh bien, passer le temps et continuer à avoir un semblant de vie sociale aussi via le jeu en ligne. Et là, d'un coup, eh ben, on te dit que, mon coco, à partir de maintenant, si tu veux continuer à pouvoir faire ça, ça va te coûter pratiquement le double. Donc, on se demande à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de procéder comme ça. Et a priori, ils ont tout foiré, puisque ce rétro-pédalage en règle...
D'ailleurs, c'est même ce qu'ils ont dit. C'est comme ça qu'ils ont même ouvert leur lettre de rectification. Aujourd'hui, nous avons foiré et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Donc, c'est effectivement, ils ont bien reconnu immédiatement, après avoir reçu, à mon avis, des dizaines de milliers de messages leur expliquant que ce n'était pas le bon moment.
Mais Romain, ce qui voudrait dire que personne en interne ne leur a dit qu'ils allaient se foirer. C'est ça qui est incroyable quand même.
Bah, si, c'est évident. Mais ce qui est aussi évident, c'est le but de la démarche, le but de la manœuvre, le seul et l'unique, c'est de décourager les gens de prendre un abonnement Xbox Live Gold et de prendre un abonnement Game Pass. Ah, mais regardez, enfin, un Game Pass Ultimate, hein, je précise. Mmh, regardez, enfin, l'offre comparée, enfin, il y a pas photo, quoi. Et moi, je me souviens, je sais plus si c'était il y a un an, peut-être un peu plus ou un peu moins, je ne sais plus exactement, mais il y avait une rumeur venant d'un journaliste américain qui est assez sérieux et très bien informé en matière de ce qui se fait chez Microsoft, qui disait que l'idée à la base, enfin, il y avait une des idées chez Microsoft, c'était tout simplement de supprimer le Xbox Live Gold et de faire du Game Pass la seule offre payante. Et au fond, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Quitte à vouloir passer les gens sur un abonnement payant, c'est d'appuyer encore plus qu'ils ne le font déjà sur ce que propose le Xbox Live Gold Ultimate, enfin le Xbox Game Pass Ultimate, et de dire, voilà, à partir de telle date, le Xbox Live Gold n'existe plus, pour tant de dollars ou d'euros par mois, si vous voulez jouer en ligne, eh ben, c'est cet abonnement-là qu'il faut prendre. Et en plus, vous avez accès de manière illimitée à tout le catalogue Xbox Game Pass.
Et en plus, son offre est beaucoup plus claire comme ça.
Ben oui.
D'un et coup, tes services sont beaucoup moins nombreux, c'est plus facile à vendre.
Pour moi, c'était la seule bonne manière de procéder. Annoncer une telle augmentation du Xbox Live Gold, qui finalement, un service qui a servi, qui a fait son temps, qui était très bien, mais qui maintenant n'a plus de raison d'être. C'est curieux. Et là encore, oui, j'ose, à moins d'être complètement déconnecté de la réalité, enfin, je vois pas comment des gens chez Microsoft ont pu se dire ça va passer, les gens vont bien le prendre. Ou alors ils se sont dit non, ça va râler, mais ça va inciter les gens à passer au Game Pass. Enfin, je vois pas. Et au bout d'un moment, toute cette com qui dit « Ouais, on fait tout pour les joueurs, on fait tout pour les joueurs », on sait très bien que les sociétés, tout autant qu'elles sont, leur but, ce n'est pas pour les joueurs. Le but, c'est pour satisfaire les actionnaires et c'est pour faire de l'argent. Donc, oui, tu peux prendre des décisions qui conviennent aux joueurs, mais ton but premier, ce n'est pas ça. Et à force de faire des choses comme celle-ci, ça trompe plus quoi. Ton intention première, elle trompe plus personne. Et ça, je crois que c'est Plume qui l'a mis dans le conducteur. On a l'impression d'être revenu au temps de Don Matrick, quoi, parce que c'est clairement.
Ça, c'est dommage.
C'est clairement une décision qu'aurait pu être prise du temps de Don Matrick, quoi.
On se demande même s'il n'a pas été conseillé, tu vois, dans l'ombre pour ce truc-là, tellement ça porte sa marque de fabrique.
Ouais. En fait, le truc sur lequel j'ai envie de m'étendre à ce sujet, c'est que depuis 2013, 2012, depuis l'époque où Microsoft a entamé sa chute en termes de communication, à chaque fois, il y a un événement qui est déplorable. Je n'ai pas tous les exemples en tête, hein, mais combien de fois c'est arrivé que Microsoft fasse une annonce et que les joueurs gueulent et qu'après, quelqu'un de chez Microsoft, un officiel de chez Microsoft, que ce soit Phil Spencer ou Aaron Greenberg, et j'en passe, arrive et disent « Ah oui, c'est vrai, on a encore merdé, désolé, on apprend à chaque fois, on essaiera de plus reproduire nos erreurs. » Donc, ça fait quasiment 10 ans qu'une boîte qui est multimilliardaire ou quand même qui est aussi tentaculaire, qui est gigantesque, où tu as des gens qui, je pense, ont des responsabilités énormes par rapport à leurs employés qui sont des dizaines de milliers. Comment une boîte comme ça peut répéter à chaque fois ce genre d'opération qui lui nuit totalement pendant peut-être plusieurs heures, peut-être qu'après c'est vite oublié, mais et dire après, ah oui, on a encore fait une erreur, on essaiera de ne pas la reproduire. Comment c'est possible pour une boîte de cette stature?
Peut-être parce que c'est les mêmes personnes qui sont aux manettes justement de la communication depuis tout ce temps et que et que la boîte n'en tire pas les conséquences. Enfin, après c'est le mécanisme de certaines grosses boîtes. Je prétends pas connaître comment ça marche pour toutes les grandes entreprises aux États-Unis, mais à un certain niveau de responsabilité, t'as des gens qui sont plus difficiles à déboulonner que d'autres.
Tu crées un placard.
J'espère que s'il y a des responsables de la communication chez Microsoft, effectivement, en tout cas pour la branche Xbox, ils se sont fait copieusement taper sur les doigts. Parce que, comme tu le dis, c'est vrai qu'on enchaîne. Et je pense que l'exemple le plus récent qu'on a en tête, c'était la présentation d'Halo Infinite il y a quelques mois, qui a été justement une tempête de matière fécale pour Microsoft, qui a été une fois de plus obligé de faire amende honorable, de dire on va repousser le jeu, on va travailler différemment, etc. Et c'est vrai qu'en termes de communication, on a l'impression qu'ils passent une partie de leur temps à écoper et à essayer de rétablir un petit peu l'équilibre. Et tu ne peux pas décemment gérer la communication d'une entreprise aussi stratégique comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. Et puis surtout, ça donne une image qui est quand même vraiment écornée. Et là, on imagine que dans le prévisionnel sur le plan financier des rentrées d'argent, ils avaient intégré justement le fait que ça allait augmenter, que des gens allaient passer au Game Pass et que voilà, ça allait leur permettre de récupérer un petit peu plus d'argent via l'abonnement, parce qu'on sait combien il y a d'abonnés au Xbox Live, mais on ne sait pas précisément combien, ils sont 90 millions, quelle partie de ces abonnés paye pour le Live Gold. Ça, malheureusement, on n'a pas forcément les chiffres, mais on imagine que maintenant, ils vont devoir tout recalculer, et qu'en plus, si jamais ils avaient l'envie, cette fois-ci, de répercuter une hausse un petit peu moins importante pour que la pilule passe, ils vont être obligés d'attendre, allez quoi, au moins 12-18 mois, le temps que ça se tasse, pour proposer une hausse qui sera absolument pas celle qui a été balancée vendredi dernier. Donc, on imagine que ça va être un petit peu compliqué pour eux, alors qu'en plus, Microsoft, on loue ses services pour justement le jeu en ligne. C'est par eux qu'une bonne partie des acteurs de l'industrie passe. On sait qu'il y a eu des partenariats avec Nintendo, avec Sony, et eux gèrent le truc comme ça. C'est à la limite de l'incompréhensible.
Quand tu as des infrastructures comme eux, ils ont, qui sont impeccables. Le Xbox Live, c'est un service qui, depuis 20 ans bientôt, ça fait pas plus de 20 ans, non, ça fait 20 ans que le Xbox Live existe et que le nombre de couacs vraiment, on va dire, dépendants de Microsoft se comptent sur les doigts d'une main, je pense. Donc, comment on peut avoir à ce point-là des outils aussi, aussi parfait et que les joueurs reconnaissent comme étant parfait et réussir à se louper à chaque fois en termes de communication, à devenir l'entreprise du mea culpa, on va dire quasiment en permanence, c'est un truc qui personnellement me dépasse.
Mais c'est là où tu vois l'importance de la communication. Elle est presque, c'est presque plus important que le reste finalement. Parce que quand tu vois une boîte comme Sony qui a eu l'histoire du piratage du PSN, une histoire qui aurait pu faire chuter totalement nombre d'entreprises. Parce que là, la fuite des données personnelles et les conséquences potentielles, c'était catastrophique. En plus, avec un PSN qui, de base, ne fonctionnait pas forcément super bien tout le temps. Et ils s'en sont complètement remis et en termes d'image, ils restent largement au-dessus, tu vois. Et t'as Microsoft en plus qui est une boîte qui est loin d'être sous l'eau en termes financiers, tu vois. Genre, on est vraiment obligé d'augmenter le prix du Xbox Live Gold parce que sinon on va pas s'en sortir, etc. Non. Et avec en plus un Game Pass qui bénéficie d'une super image à juste titre. Au moment où la Xbox Series S et la Xbox Series X sortent, ils nous font un communiqué pour nous dire que, ouais, il y a, je crois, je sais plus, hein, genre 60% des nouveaux acquéreurs de ces consoles-là qui se sont tout de suite abonnés au Game Pass, etc. Genre une offre qui est vraiment super sexy. Parce que n'importe qui a essayé le Xbox Game Pass au moins une fois, enfin, se rend compte que l'offre, elle est canon. Là, ils avaient un boulevard, parce que surtout qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment chez Sony. Ou chez Nintendo en termes de Game Pass, etc. Là, ils avaient un boulevard pour faire une annonce vraiment for the players. Ouais, on supprime le Xbox Live Gold et on va dire pendant 6 mois, 1 an, tous les abonnements Gold sont switchés automatiquement vers le Game Pass Ultimate. Et ensuite, pendant tant de temps, ça bouge pas. Et après, genre dans 1 an, tu augmentes un peu le prix du Game Pass pour essayer d'amortir le truc ou je ne sais quoi. Et là, ils avaient vraiment un boulevard pour faire une annonce comme ça qui aurait été super bien prise, etc. Et ben non, ils ont fait tout l'inverse. Et au bout d'un moment, enfin, je pense que des gens chez Microsoft, chez les hauts placés au marketing, etc., devraient avoir des comptes à rendre parce qu'on regarde les noms qui sont placés là-bas. Le sont depuis super longtemps. Les Aaron Greenberg, les Major Nelson, tous ces gens-là, dont on revoit année après année. Alors oui, ce sont des figures historiques de chez Xbox, mais au bout d'un moment, en plus, ce sont des boîtes américaines, et on sait que les boîtes américaines, elles pardonnent pas, quoi. Quand tu fais une erreur comme ça, en principe, ta tête tombe. Et eux, ils les enchaînent. Alors oui, la tête de Don Matrick est tombée, etc. Mais le Phil Spencer, qui a quand même, malgré des bonnes décisions et une image assez positive, des erreurs, il en accumule quand même un certain nombre lui aussi. Enfin, il faut quoi pour qu'il y ait du vrai changement chez Microsoft, quoi. Il faut qu'il y en ait un qui arrive avec un t-shirt Adolf Hitler pendant une conf.
Point Godwin.
Oui, ah point, oui. Oui, bah non, mais c'est un point Godwin.
Ah, peut-être déguisé en Jamiroquai, hein,
c'est un point Godwin volontaire parce que il faut quel niveau de gravité pour que les mauvais choix aient des conséquences, tu vois,
ouais, bien sûr.
C'est ça. Puis qui
ça, ça arrive à un moment dans le calendrier en plus qui est extrêmement mal choisi parce qu'on est en début de gêne. Et la rupture de stock fait que les gens peuvent encore décemment se poser la question de savoir quelle console ils vont éventuellement acheter. Là, d'un côté, tu as Microsoft qui, en gros, te fait comprendre que tous les tarifs vont augmenter à un moment donné sur l'abonnement, en tout cas, du Gold. Donc, une fois de plus, ça ne te donne pas une image très sereine de l'entreprise et de sa stratégie pour les années à venir. Donc, une raison de plus, malheureusement, pour des joueurs indécis de peut-être bouder la Series X.
Ouais, et dans la foulée, en plus, non seulement ils annulent l'augmentation du prix du Live Gold, mais en plus, ils rendent accessibles automatiquement les jeux free-to-play. Ça, c'est un truc qui aurait dû être comme ça de base, parce qu'à partir du moment où tu nécessitais un abonnement payant pour jouer un free-to-play, ça impliquait que ce free-to-play ne l'est plus, en fait. Tu as forcément une obligation d'achat derrière. Et donc, en faisant ça, en annonçant dans la foulée que les free-to-play deviennent accessibles et jouables hors Xbox Live Gold, ça prouve bien qu'ils avaient conscience que leur système n'était pas le bon, en fait. Ouais, il y a un cheminement d'idées.
Après, il y a les complotistes qui pourraient te dire ils ont fait exprès de faire cette annonce pour que tout le monde ait leur attention, enfin que l'attention des joueurs soit vraiment portée là-dessus, et pouvoir juste derrière, dans la foulée, dire ah bah oui, mais finalement, c'était pour faire une bonne nouvelle, c'était pour vous dire qu'on a arrêté les free-to-play. Mais ça, c'est pour les complotistes.
Okay, est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a pris comme ça?
Trace. Moi, je l'ai vu, hein. je l'ai vu sur les réseaux sociaux.
Ah, t'en as vu des comme ça, oui, toi.
Ah, ouais. Tout n'est pas un complot tout le temps. Et genre, en termes de communication, mais quelle mauvaise stratégie. Quelle mauvaise idée de balancer d'abord un très mauvais truc pour essayer de se...
De transformer ça en bonne nouvelle.
Et on a connu des gens qui disaient tant qu'on parle de nous. Voilà, donc bah là, ça se trouve, c'est possible. Mais j'y crois pas.
Il n'y a pas de mauvaise publicité du moment qu'on parle de nous. Etc. Ouais. Mais j'y pense pas, surtout quand tu es dans une boîte, dans la situation comme... comme Xbox, quoi.
Bon, allez. Xbox.
Il y a eu juste un truc, quelque chose d'un petit peu bizarre dans la micro-chronologie, justement, de cette annonce. C'est qu'on a eu la certitude que ça arrivait pour les États-Unis. Il a fallu attendre pour savoir que c'était le cas en Angleterre. Et il a fallu attendre encore un petit peu pour savoir que c'était le cas pour l'Europe. Du coup, t'as l'impression que même ça, en fait, ça n'a pas été véritablement bien coordonné. Et qu'il a fallu que les joueurs, les journalistes se posent des questions et interrogent Microsoft à propos de sa stratégie pour avoir la réponse. Donc, une fois de plus, il y a quelque chose d'un peu amateur en termes de...
Il y a une théorie qu'on n'a pas développée, mais ça se trouve, c'est le même pirate que le compte de Marlène Schiappa sur Instagram. On ne sait pas ça. Ah oui, on n'y a pas pensé.
Écoute, je te laisse responsable de tes théories fantaisistes.
Ou peut-être que c'est Marlène Schiappa elle-même. Bon, bref. En tout cas, on espère que Xbox va essayer de se redresser correctement de cette nouvelle embûche qu'il s'est lui-même mis sur son chemin.
Ah, mais ils vont devoir faire le dos rond pendant un moment, là.
Probablement.
Supprime le gold.
Voilà, et peut-être qu'ils vont maintenant penser à faire un Game Pass Ultimate et point, rien d'autre. Et ça, à mon avis, ça marchera.
Au fond, il faudrait même supprimer l'Ultimate. Genre, en fait, c'est comme si tu mélangeais toutes ces offres en une. Le Xbox Game Pass, parce que c'est ça le nom que les gens retiennent. C'est ça le nom que Microsoft veut développer. Une seule offre, Xbox Game Pass, 30 dollars par mois, t'as le jeu en ligne et t'as accès au Game Pass.
Ouais, mais l'Ultimate, tu payes plus cher pour la partie PC. Et il y a tout un tas de gens qui vont se contenter de jouer sur console, qui n'ont pas envie d'un surcoût pour un bout de service qu'ils ne vont pas utiliser véritablement.
Ouais, oui, alors dans ce cas-là, tu peux avoir
une gamme à deux niveaux pour un service unique. Là-dessus, je suis d'accord.
Alors peut-être que tu le renommes. Tu mets pas Ultimate, tu mets, je sais pas, Game Pass for PC ou je sais pas quoi.
Mais ça existe déjà, c'est déjà séparé les deux Ultimates, les mecs. Hein.
Maintenant, quand tu prends le Ultimate, normalement, tu as accès au Xbox Game Pass console et PC. Tu as accès aux deux et même cloud maintenant.
Ah, non, c'est pas les mêmes pour le PC et pour la console.
Sur PC, tu peux t'abonner à un Game Pass, c'est sûr. Mais je pense, je peux me tromper, mais il me semble que quand tu prends un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, tu as accès aux deux versions.
Oui, c'est
trois versions même.
Comme le nom l'indique, c'est leur formule ultime. Oui, tu as absolument tout.
Ok, d'accord, vous m'avez convaincu. Alors après, j'avais vraiment oublié.
J'ai peut-être pas la solution miracle, mais je pense que simplifier leur offre et regrouper, fusionner même certains éléments pour que ça ressorte mieux et que ça soit mieux pris par les gens, ça serait pas une mauvaise idée.
Bah, ils ont essayé visiblement, mais ils n'ont pas pris de la bonne manière.
Je pense qu'ils ont pris la plus mauvaise stratégie. Quoi.
Tu sais, quand surtout, on touche le fond après.
Et encore plus par les temps qui courent. Genre, d'une manière générale, une augmentation de prix, c'est jamais bien perçu. Mais alors en plus, par des temps de pandémie, de confinement, chômage partiel, etc., etc., plein de gens aux States qui n'ont plus de taf et ils ne sont pas forcément aussi bien couverts que nous le sommes ici. Enfin, c'était pas le bon moment pour annoncer ça et pour le faire de cette manière-là.
Après l'investiture de Joe Biden, tu peux peut-être te permettre des trucs. Hein, moi, je dis que c'est tellement la fête, ça peut passer. Mais bon.
Ça a changé.
Bref. Ben voilà, donc Microsoft, on espère que vous allez aller un peu mieux dans votre tête bientôt. Le thème numéro 3. Ah, le thème numéro 3. Le thème numéro 3, c'est Balan Wonderworld. Alors, Balan Wonderworld, est-ce qu'on va l'appeler de la balle Wonderworld ou Balek Wonderworld? Eh bien, c'est Thomas qui va nous le dire, qui a pu jouer à la démo du dernier jeu de Yuji Naka. Donc, Yuji Naka qui est, Thomas, rappelons-le,
Ah bah, illustre designer de Sonic the Hedgehog, de toutes les suites, de Night into Dreams, de Let's Tap après sur Wii. Enfin bref,
une légende.
On accole généralement l'image de Sonic à Yuji Naka, qui n'en est pas le concepteur, mais qui lui a permis de
on va dire co-créateur.
Ouais. En tout cas, designer sur le premier et sur toutes les suites. Bref, une figure quand même assez iconique du jeu vidéo. Bah, qui a un peu roulé sa bosse d'ailleurs, et qui, justement, au moment où il commençait à préparer le terrain pour l'annonce de Balan Wonderworld, qui est son premier jeu avec Square Enix, édité par Square Enix, il nous parlait justement de sa retraite, parce qu'il a 55 ans aujourd'hui, le père Yuji Naka, et il nous expliquait, enfin, il s'exprimait en disant que, bah, à son âge, chaque jeu compte. Parce qu'il ne lui reste pas tant de jeux que ça à réaliser avant de prendre sa retraite. Du coup, on se dit que, OK, le prochain, il va envoyer du lourd, ça va être un truc avec un peu de gueule, etc. Et donc arrive Balan Wonderworld, qui est un jeu de plateforme 3D très classique. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait en déduire sur les premières vidéos. Et là, on a pu jouer à une démo à laquelle vous allez pouvoir vous aussi jouer à partir de demain, jeudi. La démo sera disponible dès le 28 janvier. Et bah, qui nous propose de découvrir trois mondes. Trois mondes parmi les 12 qui vont construire le jeu. Alors, pour ceux qui auraient loupé peut-être un petit peu la com autour de Balan Wonderworld, on y incarne deux jeunes héros. Un héros et une héroïne, Léo et Emma. Ça rappelle un tout petit peu Knight, justement, sachant qu'en plus, c'est le même chara-designer qui travaille avec Yuji Naka. Donc, on retrouve visuellement quelque chose de très Sega dans l'esprit, vraiment, mais plutôt le Sega de la fin des années 90, du début des années 2000. Et donc, ces deux jeunes protagonistes vont rencontrer Balan, ce personnage un petit peu mystérieux, vêtu d'un costume blanc qu'on a pu apercevoir dans les différentes bandes-annonces, qui va les emmener dans le Wonderworld, et bien dans lesquels ils vont rencontrer en fait des personnages un peu marqués au fer rouge par la dureté de l'existence, et bah, qui vont essayer de redonner une espèce de joie de vivre. Comment ? Eh bien, en explorant des niveaux très classiques, en collectant des gemmes, principalement, on est sur quelque chose de vraiment à l'ancienne. Et en fait, dès qu'on commence l'aventure, on se rend compte que Balan Wonderworld, c'est un jeu de plateforme qu'aurait sans doute pu sortir à la toute fin des années 90, tant il est très sage, très convenu en fait dans ses mécaniques. On a un personnage qui se déplace de manière tout à fait classique, on saute sur la tête d'ennemis qui sont pour l'instant pas du tout dangereux pour les faire disparaître. On récupère tout un tas de gemmes de différentes couleurs qu'on va pouvoir utiliser après pour donner à manger en fait à des petites créatures. Ça fait évidemment penser à la collecte de ressources pour les Chao dans les différents opus de Sonic Adventure. On a tellement d'éléments de la carrière de Yuji Naka que même si on ne savait pas qui était derrière, on aurait pu se douter que c'était un ancien de chez Sega qui était à la manœuvre, parce que vraiment, que ce soit en termes de visuel, de design, on est sur quelque chose de très 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 marqué. Et la mécanique principale du jeu, c'est que dans chacun des différents mondes, des différentes zones que vous allez pouvoir explorer, eh bien, on va récupérer tout un tas de costumes. Des costumes différents, il y en a 80 en tout. Alors évidemment, il n'y en a pas 80 là dans cette démo, il y en a plutôt une douzaine. Mais chaque costume propose un move particulier. Ça va être du coup de poing avec un poing qui part très loin pour assommer des ennemis, au personnage qui va tourbillonner comme Taz pour justement attaquer aussi ou permettre d'atteindre des hauteurs. On a un costume qui va permettre de rester un petit peu en l'air, comme un Yoshi, en secouant un peu les pieds une fois dans les airs, ou d'activer des mécanismes. Bref, à chaque costume, il y a une fonction très particulière. Et le problème, c'est que on se dit très bien, ça nous donne une palette d'actions, de mouvements qui va nous permettre de progresser, etc. Le souci, c'est que en fait, ça restreint la liberté de mouvement, en fait, cette idée de gameplay, parce que chaque costume propose une action, et généralement une seule. C'est-à-dire que tel costume va te permettre d'attaquer, mais il ne va plus te permettre de sauter, par exemple. Ce qui fait que tu vas devoir changer de costume avec les gâchettes L1 ou R1, ce qui prend un petit peu de temps. On n'est pas loin des 2 secondes pour changer de costume, sachant que l'action continue autour de toi, donc ce n'est pas quelque chose d'immédiat comme ça, de très rapide et de très fluide. C'est un peu frustrant. Et
comment bah, ça, t'as un chargement, ça fait quoi,
c'est l'animation qui se met en place, c'est ça?
Il y a une animation, voilà, ah, qui dure une seconde et demie, deux secondes, pendant laquelle le jeu ne s'arrête pas. Donc, si t'avais un ennemi, par exemple, qui avançait vers toi ou une plateforme qui se déplace, l'action en fait continue autour. Et le problème, c'est que tu peux même pas passer rapidement d'un costume à un autre. T'as une petite roue en fait qui les fait tous défiler, sachant que tu peux les cumuler. En plus, tu peux avoir deux fois le même costume, mais t'es obligé de passer par toutes les étapes avant d'obtenir le bon. Donc ça paraît pas grand-chose comme ça, une seconde et demie, mais quand t'es dans le cœur de l'action, mis bout à bout, t'as l'impression que ça casse complètement le rythme, et surtout, bah, tu te sens un petit peu contraint, en fait, parce que tel costume, comme je te disais, va te permettre de déclencher une action, mais pas une autre, et du coup, tu passes une bonne partie du jeu à changer, à aller venir, sachant qu'en plus, tu les perds dès que tu te fais toucher, donc il faut aller les récupérer après, derrière. Et vraiment, plus je jouais, et plus je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce que Naka avait décidé de structurer le jeu autour de ça? C'est comme si tu prenais Mario 64 et que bah, chacune des actions que tu peux exercer dépendait d'un costume différent. Tu vois, faire un triple saut, voilà, ce serait un costume. Faire un LBJ, ce serait un autre. Le coup de poing, ce serait encore un autre costume. Et t'imagines devoir jouer avec ça en switchant systématiquement entre différentes casquettes. C'est pas super plaisant. C'est très frustrant, en fait, quelque part, d'autant plus que les niveaux sont d'un classicisme, mais presque d'une naïveté assez folle. Vraiment, on est sur de la plateforme très, très sage, très années 90, en fait, comme si le genre n'avait pas beaucoup évolué depuis. Et encore, je ne vous parle pas du meilleur des années 90, parce qu'on a eu de très bons platformers 3D à l'époque. Là, on est vraiment sur un truc, mais premier degré. Tu montes sur des escaliers, tu prends des plateformes qui bougent, tu sautes sur quelques ennemis qui sont absolument pas menaçants. Il y a un côté, mon premier jeu de plateforme, en fait.
Tel que tu le décris, ça me fait penser à Lucky's Tale. Tu sais, le jeu avec le petit renard, là, c'était pareil. Il n'y avait rien de dramatique, mais c'était juste pas original et d'une simplicité déconcertante. Mais là, pour le système de costume, en fait, quitte à vouloir faire ce truc-là, il aurait fallu que ça soit instantané. Et oui, jouer justement sur l'instantanéité de la transformation.
Ça réglerait pas mal de problèmes, je pense. Si on avait vraiment quelque chose d'instantané, on y gagnerait en rythme. Parce qu'en plus, c'est un jeu assez lent. Enfin, tu te balades, tu récoltes des gemmes. Le but principal, c'est de récolter des statuettes de balane qui vont te permettre de débloquer en fait les différents niveaux dans le hub central au fur et à mesure. Donc en gros, tu cherches des items particuliers au sein des niveaux et tu te rends compte que pour récupérer telle statuette, bah, forcément, il va falloir le costume de mouton qui te permet de flotter dans les airs pour te laisser porter par un courant ascendant, etc. C'est assez clair ce qu'il faut faire, c'est pas très compliqué. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de challenge, si ce n'est te battre justement avec ces différents costumes pour pouvoir progresser. Et c'est très enfantin, en fait. C'est vraiment... Je pense que c'est un jeu qui aurait pu sortir sur Dreamcast sans mal. Enfin, vraiment, dans sa présentation, c'est mécanique. Alors, on est face à quelque chose d'ultra coloré. Vraiment, c'est féerique. On a des couleurs presque saturées, ça pète. C'est quelque chose d'un petit peu voilà, merveilleux dans le sens premier du terme. Mais derrière ça, on se demande en fait ce que le jeu a à proposer. Vraiment, c'est pas pour lui mettre un coup de pied gratos par derrière. J'ai parcouru les quatre zones qui nous étaient proposées. Je me suis demandé, mais c'est quoi en fait l'originalité de ce titre? Qu'est-ce qu'il a de vraiment sympa en fait qui le distinguerait des autres? Et pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas trouvé en fait, parce que tout est extrêmement convenu. Toutes les phases de jeu ont été expérimentées ailleurs. Et on a en plus un tout petit mode où ça se transforme en micro-jeu de rythme, où pendant 15-20 secondes, tu as ce personnage de balade en fait, qui va s'attaquer à un ennemi. Ça part en image de synthèse et en fait, tu as une espèce de surimpression de sa silhouette qui arrive sur lui. Et au moment où les deux fusionnent, il faut que tu appuies sur n'importe quel bouton et ça déclenche un coup. Tu fais ça quatre fois et puis tu passes à autre chose. Tu te demandes ce que ça vient faire là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je me suis posé plein de questions en fait en jouant à cette première démo. Et pourtant, j'y croyais. Hein. Je pense que Plume peut en témoigner. Moi, j'avais de l'espoir en me disant que comme Naka avait un peu préparé le terrain, on allait pouvoir avoir quelque chose d'original et tout. Et pas du tout. Et vraiment, maintenant, je ressors de cette démo en me demandant mais quel est l'intérêt en fait, de Balan Wonderworld? À part peut-être eh bien, pour vraiment bah, des enfants ou des débutants qui ne connaîtraient pas le platformer 3D. Et pourtant, y en a plein pour s'initier au genre qui sont a priori beaucoup plus intéressants que celui-là. Donc, bah, j'ai largement déchanté en fait en sortant de cette démo. C'est la même que vous allez pouvoir essayer, donc bah, tout le monde va pouvoir se faire un avis sur les éventuelles qualités du jeu. Mais franchement, là, pour l'instant, bah, je n'ai plus très envie, moi, en fait.
Bah, c'est dommage parce que tu seras quand même obligé.
Ouais, c'est un, peu, ça, la c'est un peu la débandade, quoi. Ouais. Et je me dis, 12 mondes comme ça, ça va être un peu long, en fait, parce que chaque monde, c'est une petite histoire. Pour vous donner un peu la teneur du truc, c'est le premier, c'est un fermier qui cultive ses champs de maïs. Catastrophe, une tornade dévaste ses récoltes et toi du coup en récupérant des statues de balan tu vas, et en battant le boss de fin de niveau eh bien tu vas ramener un espèce d'arc-en-ciel qui fait germer une pousse de maïs et du coup le fermier est très content et saute de joie en imaginant qu'il va pouvoir reprendre son activité. Et voilà, c'est ça, c'est un peu le jeu. Et d'ailleurs, à l'intérieur, quand tu passes d'une zone à une autre, il y a énormément de checkpoints. De temps en temps, tu as plein de personnages qui apparaissent avec des confettis qui t'applaudissent. Donc, on a vraiment l'impression, en fait, que c'est un jeu pour les enfants, tu sais, où on, pour le moindre truc, Romain me contredira pas, je pense, dès que tes enfants font un truc pour la première fois ou le font correctement, tu surjoues un petit peu le côté compliment, etc. Dire, ah, bravo, c'est super. Bah là, pour le moindre truc, le jeu te félicite un petit peu comme ça. Et c'est très perturbant, en fait. Parce que tu
t'as fait caca dans le pot.
Voilà, bah, c'est un petit peu de ce niveau-là. Donc, je suis très déçu. Je vous le cache pas de ce que j'ai vu pour l'instant et bah, je vais y aller à reculons en fait sur la version finale parce que le jeu arrive là le 26 mars donc c'est très très bientôt. Je les vois mal corriger énormément de choses.
Est-ce qu'il en a envie de corriger quoi que ce soit? Est-ce que c'est pas juste un jeu feel good super simple et juste qui a juste envie de communiquer quelque chose de joyeux? Tu vois, tu parles du scénario. Ah bah le pauvre. Pauvre agriculteur, il lui arrive des bricoles et derrière, tu vas réparer ça.
Ouais, mais c'est cucu. C'est pas feel good, c'est cucu.
Bah, peut-être que pour toi, c'est cucu. Peut-être que pour d'autres personnes, peut-être que pour un public japonais qui est assez différent du public occidental, peut-être que c'est quelque chose qui va l'aider à passer outre la pandémie dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Peut-être.
Après. Peut-être aussi que là, comme c'était une démo et que c'est le premier niveau, on sait par exemple que dans les Mario, le premier niveau sert toujours à planter les bases avec un gameplay assez simple qui te montre les différentes actions qui sont à ta portée et le level design devient plus compliqué, les challenges plus relevés. Plus tu progresses dans le jeu. Après, je dis pas que Naka a le talent de level designer des gens de chez Nintendo, par exemple, mais je dis que peut-être que ça sera ça.
On n'a pas vu que le premier monde. Hein. En fait, t'avais chaque monde est divisé en trois zones, deux zones de plateforme et un boss. Donc en fait, on a pu faire l'intégralité du premier monde, mais aussi voir un bout du quatrième et du sixième.
Ah oui, alors, d'accord.
Effectivement, le challenge est un tout petit peu plus relevé, mais en termes de mécanique, ça reste vraiment de la plateforme, mais pur jus, premier degré, avec des énigmes qui sont extrêmement simplistes, toujours cette mécanique de récupérer un nouveau costume pour progresser, et puis surtout, les environnements, le monde 6, en l'occurrence, qui est le dernier sur lequel se conclut la démo, t'as un monde... en lévitation, tu sais, au milieu d'un espèce de vide, avec de temps en temps une chaussure à talons ou une fraise qui passe dans le fond, c'est visuellement très très pauvre, que ce soit les décors, les textures, enfin, on a l'impression que le jeu a une bonne quinzaine d'années de retard, en fait. Et je m'attendais...
Et aussi derrière, évidemment... sur la jaquette, une bonne quinzaine d'années de retard.
Et on se demande, ouais, pourquoi le premier jeu de Naka chez Square Enix est aussi convenu, quoi. C'est pas la version définitive, mais je me dis d'avance, c'est quand même super dommage qu'on nous propose un titre de cette teneur-là, quoi.
Et un truc dont tu as pas parlé, ce qui est étonnant, vu que c'est toi, les musiques, ça donne quoi?
C'est convenu. Non, mais vraiment, tout est convenu, quoi. Pareil, c'est des musiques joyeuses, premier degré, quoi. Alors que dans les différentes vidéos qui étaient proposées, tu avais l'impression que justement, les personnages qu'on allait rencontrer, alors on a vu que le fermier, mais qu'ils avaient tous une espèce de noirceur, un truc pas chouette qui leur est arrivé dans leur vie. Et justement, l'intrigue du jeu, c'était essayer de colorer le monde, tu vois, de redonner des couleurs à la vie et un peu d'espoir et tout. Mais là, putain, c'est tellement premier degré, c'est tellement cucu, c'est le mauvais côté des jeux japonais, tu vois. Donc moi en tout cas, j'ai pas accroché. Peut-être que voilà, faites-nous, chers lecteurs, votre retour, essayez la démo et dites-nous si j'ai été un peu trop dur. Mais franchement, pour l'instant, je comprends pas. Du coup, je comprends pas ce qu'il a à me proposer, Balan Wonderworld. Et c'est dommage parce que la plateforme 3D, c'est pas un genre qui croule sous les sorties, quoi. Sachant qu'en plus, du coup, on va avoir un Super Mario 3D World plus Bowser's Fury qui va arriver un mois avant. Ça s'annonce quand même un petit peu compliqué.
Après, la plateforme 3D, c'est pas forcément le genre qui se vend le mieux. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on croule pas sous les
sauf sur Nintendo.
Voilà. Et le truc, c'est que peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait peut-être un secteur à prendre ailleurs que sur Switch. Parce que les Mario et tout ça, aussi bons soient-ils, bah, comme toujours, ils ne sortent que sur console Nintendo. Donc au niveau plateforme 3D sur PlayStation et Xbox, bah, on n'a pas grand chose.
Et pour le coup, c'est le cas puisque le jeu va vraiment sortir absolument partout, PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X, etc. Enfin, tout le monde va pouvoir en profiter. Et d'ailleurs, il y aura des spécificités haptiques sur la version PS5. Malheureusement, j'ai joué moi à la version PS4 ne possédant pas la console chez moi. Donc S'il y avait déjà dans la démo des exemples justement d'utilisation de la DualSense, malheureusement pour l'instant je n'ai pas pu en profiter. Après, je doute que ça transcende d'un coup l'expérience, tu vois. Je me permets d'émettre quelques réserves à ce niveau-là.
C'est ce que j'allais dire, vu que ça sort partout, j'imagine mal qu'ils aient créé une expérience vraiment super différente sur PlayStation 5 pour profiter de la manette, alors que tous les autres ont un truc basique.
Ils ont communiqué dessus. Après, on verra ce que ça donne. Allez, je me ferai un petit peu de mal. J'essaierai la démo sur PS5 pour voir ce que ça donne. Mais voilà, vous l'aurez compris, c'est franchement pas très bien parti pour Balan Wonderworld. Donc, pour répondre à ta question initiale, mon cher Plume, je vais choisir la réponse B.
C'est vrai. Il y a aussi Banane Wonderworld, hein, si jamais tu... Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Hein. Okay. On peut faire plein de jeux de mots, je pense.
Mais c'est mon dernier mot.
D'accord. Eh bien, écoute, ça va être le dernier mot de ce podcast aussi, puisqu'il touche à sa fin. Nous avons fait le tour de l'actualité de Resident Evil, de Microsoft et de Balan Wonderworld. Nous pouvons donc conclure ce podcast. Vous remercier une fois de plus de votre fidélité. Remercier Thomas et Romain de leur participation et de Poufy pour son jeu de DJ aux manettes, quand notamment il y a des coupures durant le podcast.
Pour ces petits rires disséminés qu'on entend. Oui.
Nous entendons.
On devrait appeler ça des pouffements parce qu'on l'entend dans nos oreilles de temps en temps. Il y a une phrase, on entend.
Ouais, exactement.
Là, on sait que c'est Poufy, mais vous ne l'entendez pas, mais nous on l'entend.
On sait qu'il s'est pas endormi à ce moment-là, au moins.
Sinon, on entendait, tu sais. Ouais. Là, d'ailleurs, j'ai eu un pouffement dans l'oreille.
Bon, écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas de porter vos masques, de vous laver les mains, de respecter les gestes barrières. Si on n'est pas confiné, parce que là, au moment où on enregistre, évidemment, nous sommes le mardi, on ne sait toujours pas si on a été reconfiné ou pas. Quoi qu'il en soit, respectez bien tout ça. Et comme ça, on sera sûr de se retrouver la semaine prochaine. Voilà, allez, on vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.
Un bisou de loin.